Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
Alors c'est à 19h et c'est un match important, même si sur le papier c'est un match déséquilibré. Le Portugal affronte l'Ouzbékistan. Il se trouve que le cas Ronaldo n'est toujours pas tranché par le sélectionneur Roberto Martinez. Arnaud Valadon, tu vas commenter la rencontre sur RMC. Grosse pression hein, sur les Portugais.
Oui, le sélectionneur entend toujours protéger sa star. Il avait d'ailleurs déclaré après le nul contre la RDC, lorsque l'on cherche à marquer des buts, il faut que Cristiano soit sur le terrain. Et hier, en conférence de presse, Roberto Martinez, interrogé, a érigé CR7 en modèle pour tout le monde.
Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un joueur très expérimenté, donc cela aide. Je pense que c'est un joueur qui se concentre tellement. C'est probablement le plus grand exemple dans la façon de se concentrer sur les aspects que l'on peut influencer. La façon dont il récupère, la façon dont il se prépare, la façon dont il s'entraîne. Et c'est un bon exemple pour nous tous. C'est sa 6e Coupe du Monde et cela aide vraiment dans ce domaine.
Sauf qu'à 41 ans, CR7 fait son âge. Il reste sur 10 matchs sans marquer en phase finale de grande compétition, Coupe du Monde et Euro. Dernier but 2022 contre le Ghana. Et il n'est plus si intouchable que ça dans l'opinion. Le grand quotidien portugais Abola a réalisé un sondage qui demandait quels joueurs doivent être titulaires tout à l'heure face à l'Ouzbékistan. Pas de Cristiano dedans, mais plutôt Gonçalo Ramos, l'attaquant du PSG.
C'est ça qui change tout. Puisqu'avant, en fait, on pouvait pas trop toucher à Cristiano parce que.
Y a rien à dire.
Parce que c'était la crise nationale, en fait.
Mais enfin, il y a deux, on pouvait pas le toucher parce que d'une, il était performant, et qu'il y avait pas, il y avait pas grand monde autour de lui. Aujourd'hui, il y a quand même du monde dans cette équipe du Portugal, même si Gonçalo Ramos a pas non plus, au PSG, c'est un statut de remplaçant
Gonçalo Ramos a prouvé lors de la dernière Coupe du Monde qu'il pouvait être.
Sur un match, Pierrot. Il a mis un triplé contre la Suisse, je crois, et c'est tout.
Et CR7 était sur le banc.
C'est tout. Et ensuite, il y a du monde. Donc, Cristiano Ronaldo, il met plus un pied devant l'autre. Parce que les chiffres le prouvent et le premier match le prouve aussi. Et il y a des garçons qui sont susceptibles de le remplacer. C'est pour ça aussi que l'opinion publique commence peut-être à tourner un peu. Tu vois, si Messi avait fait deux premiers matchs Qatar, l'opinion publique aussi, peut-être qu'elle aurait dit, ah, peut-être que Lionel Messi, c'est la fin. C'est pas, Pierrot. Si l'Argentine avait été pas très bonne, avait fait nul et que Messi mettait pas un pied devant l'autre, peut-être qu'aussi il y aurait eu ce.
Messi a jamais été vraiment nul avec l'Argentine, hein, alors que Cristiano, ça fait un moment que c'est un boulet quand même.
Je pense qu'ils vont aller dans le mur avec lui.
Je suis comme Stephen. À un moment donné, quand tu alignes un joueur qui joue à ce même poste et qui fait un triplé, tu as fait basculer les choses. Tu peux expliquer légitimement que ta vedette, ta star, ta légende, va passer sur le banc. Elle sera là, mais elle jouera moins. Et il a fait l'inverse. Après, quand on voit comment joue le Portugal et les déclarations avec un milieu de terrain que toute l'Europe et tout le monde envie, ces deux-là, quand tu vois le dispositif et comment ça joue. La grosse différence dans ce dispositif portugais par rapport à si on peut comparer à Messi, c'est que à Messi on lui donne Ronaldo la demande, il est sans arrêt en demande et à pester que ça passe pas par lui, mais tu peux pas jouer avec un piqué et l'attitude est pas bonne et ça a le don d'énerver. Moi les déclarations de João Neves, je les comprends et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le débat Messi, non, agacer si ça bouge pas.
João Neves, ses déclarations, il a dit quoi, il a juste dit que c'est un joueur comme nous, comme les autres.
Et il doit être considéré comme les autres, évidemment. Mais aux yeux de sélectionneurs et aux yeux d'un certain public portugais, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et le problème, c'est que au-delà des considérations pseudo-contractuelles qui est en cours en ce moment entre le sélectionneur et Al Nasser, c'est l'opinion publique qui fait prendre la décision à un coach de mettre un joueur sur le terrain. C'est pas bon si tu veux gagner une compétition. Il faut faire fi de l'opinion publique et avoir des certitudes. Et les certitudes, ça passe certainement plus par CR7. Je suis désolé.
Eric. Non mais le il faut se mettre à la place du coach. Gérer ce genre de cas, ça doit être très compliqué. Si le mec se met pas tout seul et s'il prend pas sa retraite, qu'il veut continuer à jouer, c'est difficile d'être le sélectionneur qui va mettre laisser à la maison Cristiano. Et donc il est dans ce cas-là, c'est-à-dire que il est dans le cas où tu es obligé d'aller au bout et aller peut-être dans le mur avec Cristiano. Ça s'était passé avec la génération espagnole qui avait tout gagné là, c'était au Brésil où ils avaient explosé, c'était même pas sorti de la poule les Espagnols, c'est ça Pierrot, hein, si je me souviens bien.
C'est Adrien Champion en titre, oui. Oui, je dis oui.
Oui, oui. Donc, oui, et parce que justement, c'était une génération dorée. Alors là, c'était plusieurs joueurs, mais génération dorée qui a tout gagné. Et les mecs sont toujours là. Et tu es obligé de les mettre. C'est dur de trancher. Ah. Donc
après, il y a quand même un truc qui n'est pas clair avec Al Nasser. Franchement, l'histoire elle est dingue.
Mais non, elle est pourrie l'histoire.
Mais oui, c'est pas si on peut appeler ça un conflit d'intérêt, mais ça peut être biaisé. Cristiano Ronaldo, je caricature, mais c'est le patron de ce club. C'est lui qui fait venir qui il veut comme coach. C'est comme Messi à Miami, il fait venir tous ses potes entraîneurs à chaque fois. Donc la situation, elle n'est pas saine. Elle n'est pas du tout saine.
Et la situation.
Il est coincé, le sélectionneur.
La situation qui n'est pas saine non plus, c'est que là, en estimant que l'équipe d'Ouzbékistan n'est pas à la hauteur, même si le premier match n'a pas été facile pour le Portugal, il met un but ou deux et c'est reparti. Quoi. Il faut l'aligner, il n'y aura plus rien à dire. C'est ça le problème.
On zappe le Portugal d'Ouzbékistan, 19h à vivre sur RMC avec Arnaud Valadon pendant Rotten sans flamme. L'actu du 15 de France, c'est trois matchs dans l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, Australie et Japon. Et apparemment, Pierre Thévenet, Fabien Galthié veut emmener une grosse équipe de France.
Oui, 33 joueurs appelés, dont 12 bordelais. L'élimination précoce de l'UBB aura bien servi Fabien Galthié. Maxime Lucu sera le capitaine de cette équipe avec donc Jalibert, Moefana, Deporter, Penaud par exemple. D'autres cadres des Bleus sont présents. Atis Ogbe, Gaëton, Guillard également. Et des jeunes comme le Toulonnais Mathis Ferté ou le Perpignanais Théo Forner. 33 joueurs, ça veut dire qu'il reste 9 places pour les finalistes de samedi soir.
9 finalistes.
9 finalistes, a priori. Sauf blessure samedi soir lors de la finale. À ce moment-là, Fabien Galthié pourrait revoir ses choix, mais il a déjà, lui, contacté les 9 joueurs qu'il souhaitait voir rejoindre le groupe. Les accords n'en permettaient que 5 jusqu'à maintenant, mais vu que c'est une vraie compétition, ces accords ont sauté et le sélectionneur fait ce qu'il veut.
J'ai toujours essayé de faire la meilleure équipe de France possible avec deux contraintes. Donc il faut prendre des décisions. Donc il reste les deux meilleures équipes du championnat en cours qui doivent jouer leur finale. Donc on doit partir à ce moment-là. L'an dernier, on a fait une première expérience. 5 joueurs qui étaient autorisés à partir par leur manager, par leur président et sélectionnés par moi. J'arrivais en troisième position. Cette année, grâce aux accords qu'on a avec la Ligue, on est toujours dans la discussion avec les managers, toujours en discussion avec les présidents, mais j'arrive dans la décision en première position.
Voilà, c'est lui qui décide maintenant, c'est le patron, et il veut bien figurer. Deux entraînements de 2 heures à très haute intensité sous le soleil hier et aujourd'hui pour les préparer. Une liste de 9 joueurs sera donc annoncée après la finale. Parmi les noms qui nous sont remontés aux oreilles, il pourrait y avoir Nouchi, Kado et Vérac de Montpellier, et côté Toulouse, Dupont donc, mais aussi Tamak, Movaka, Meafou, Roumat, qui ont été évoqués.
Dupont, Tamak,
et Movaka également.
Mais évidemment, ils ne pourront pas jouer contre la Nouvelle-Zélande.
Ils pourraient pas dans l'absolu. Non, ils n'ont pas le droit.
Jérôme.
Non, mais j'ai une tournée d'été avec Dupont, Tamak et Meafou, c'est pas la même que d'habitude. Exactement. Et ça donne envie de la suivre. Évidemment que c'est enfin pour. Oui. Moi, je vais être occupé cet été, tu sais.
Non, mais justement, Fabien Galthié nous a dit, vous allez tous avoir les regards braqués sur la Coupe du Monde de foot et le Tour de France. Il a dit, j'espère que vous nous verrez un petit peu.
Mais oui, le samedi matin à 9h, c'est magnifique.
Mais fais-toi, Fabien, parce que si ça se passe pas bien, tu serais bien content qu'il y ait la lumière.
Qu'on va parler de la Coupe du Monde. Non, on n'y est pas.
Et les phases finales, c'est aussi les phases finales du basket ce soir. Il y a un moment très alléchant, puisque c'est le match 5 de la finale du championnat de France entre Paris et Monaco. On va connaître donc le champion de France à l'issue de ce match décisif, mais un match sur fond de polémique, voilà. Puisqu'il y a une drôle d'histoire avant cette rencontre. Diane Carlotti nous a rejoint. Salut Diane.
Salut Pierrot, salut Vincent, salut à tous. Salut.
Les joueurs de Monaco ont menacé de boycotter la rencontre en raison de la suspension de Mathieu Strazel, le monégasque. Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que vraiment on pourrait assister à un boycott tout à l'heure?
Alors écoute, pour l'instant, à l'heure où on se parle, on ne sait toujours pas si Mathieu Strazel pourra jouer ce soir ou pas. Et de cette décision, eh bien, dépend l'éventuel boycott d'une partie du vestiaire monégasque. Un boycott qui, disons-le, semble assez improbable et ce, peu importe le verdict. Ce qu'on peut dire à date, c'est que le meneur de 23 ans et toute la Roca Team sont présents à Paris sur les réseaux sociaux du club. On les a tous vus s'entraîner sur le parquet de l'Adidas Arena où se jouera le match ce soir. Vincent, je te rappelle que Strazel a été suspendu par la Ligue Nationale de Basket, la LNB, pour avoir traité l'arbitre Mehdi Difala de tricheur lors du troisième match de la finale à Monaco. La suspension a été annoncée hier après-midi et devait prendre effet pour le match 5, le match décisif ce soir. Mais le club du Rocher a fait appel de la décision en urgence devant la commission d'appel de la Fédération française. Autrement dit, accrochez-vous bien, ils ont demandé à suspendre la suspension de Strazel et on attend toujours le verdict. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, même si Mathieu Strasel est suspendu et ne joue pas, eh ben, on peut quand même s'interroger sur la tenue du boycott. C'est le dernier match de la saison pour les deux équipes. Beaucoup de joueurs de Monaco vont quitter le club prochainement. Donc, est-ce qu'ils pourraient renoncer à aller chercher un dernier titre tous ensemble avant de tirer leur révérence? Bah, franchement, ça semble pas tenir la route.
Ça, c'est vrai que ça semble pas tenir la route, mais il n'y a pas vraiment de sortie positif de cette affaire, Steve, parce que Mathieu Strasel a eu un comportement quand même indigne lors du match 3. Donc soit il est suspendu et c'est pour ça que ça flingue la finale, soit il ne l'est pas et les Parisiens vont se sentir lésés.
Il y a un problème de chronologie, Pierrot. Quand tu fais une connerie sur le match 3, t'es suspendu pour le match 4. Il n'y a pas de tu fais une connerie au match 3 et t'es suspendu pour le match 5. La responsabilité, c'est de la Ligue nationale de basket quand j'ai accompagné des matchs de play-off à 48 heures d'intervalle. Tu fais en sorte qu'il y ait, puisse avoir une commission pour juger sur le match 4. Il a joué le match 4. La logique des choses voudrait qu'il joue le match 5 aussi, Mathieu Strasel. Voilà, ils se sont mis dans la mouise. Maintenant, le boycott, moi j'y crois pas trop, c'était juste un petit coup de pression pour que le jugement soit rendu en faveur des Monégasques, mais écoute, on suivra ça avec attention. Mais moi je pense que Monaco sera sur le parquet
au complet. Ils sont favoris, enfin au complet, il y a beaucoup d'absents, mais si Strasel est là,
pas favoris, mais même s'ils ont sur la globalité de la série, ils ont plutôt été dominants. Maintenant c'est un match 5, l'année dernière Paris a été champion de France sur un match 5 à l'Adidas Arena aussi. En tout cas j'espère que tout le monde sera là pour le bien du sport, même si l'image est pas bonne, ce que Mathieu a fait c'est pas bon, et puis ne pas sanctionner Mathieu. Tu mets un petit peu l'arbitrage aussi, tu t'es fait insulter tricheur 4 fois en 20 secondes, tu donnes pas une très bonne image sur la protection de l'arbitrage aussi.
Tu as 20 secondes pour nous expliquer l'impact du transfert de Giannis Antetokounmpo à Miami.
Écoute, Giannis Antetokounmpo, double MVP de la Ligue, champion 2021 avec les Bucks, qui a toujours joué dans cette franchise des Bucks, a été transféré à Miami contre quelques joueurs très bons, notamment Tyler Hero qui est All-Star. Ça a redistribué les cartes dans cette conférence S, puisque maintenant il y a un binôme qui s'appelle Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo à Miami, coaché par un des meilleurs coachs de la ligue. Donc Miami redevient un prétendant éventuellement. Ils vont encore se renforcer, mais ils ont une belle équipe.
Prétendant au titre l'année prochaine?
Non, pas, alors je vais attendre quelques autres noms. Pas prétendant au titre. Il y a des mecs qui sont devant, Boston notamment. Mais Miami redevient éventuellement candidat pour être une finale de conférence. Mais c'est un gros coup, et voilà. On va voir Giannis Antetokounmpo jouer avec le maillot de Miami.
Il y a une raison de plus pour Eric de regarder les playoffs NBA, puisque c'est un peu sa franchise.
En plus,
de Miami,
c'est chez toi, Eric.
Ben oui. Enfin, c'est chez moi, c'est chez ma fille. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de...
Fille, c'est chez toi.
Non.
C'est grâce à ça qu'il est devenu bilingue, Eric.
Exactement, mais c'est vrai que je suis allé voir pas mal de matchs là-bas. Ouais.